Rachel Hertel, bonjour.
Bonjour.
Alors, au cours du deuxième entretien que vous nous avez accordé, vous avez évoqué avec Dominique une relation quasi spéculaire, en tout cas de partage avec Lévick dans vos traductions, puisque vous avez traduit notamment sa poésie, mais aussi Dans les bagnes du tsar, qui relate ses années de captivité dans les geôles tsaristes au début du XXe siècle. Et l'on sait, ça a été évoqué, la relation difficile que Lévick avait avec son père, c'est un euphémisme, son père qui le rêvait rabbin et lui qui s'est finalement consacré à ses engagements, d'abord pour le Bund et puis pour l'écriture yiddish, pour devenir le grand écrivain qu'il est devenu et que nous connaissons grâce à vous. Les mots qu'il choisit pour parler de son père sont souvent très durs, du reste. Hein, pour citer votre traduction, il évoque un père froid, sans tendresse. En revanche, sa mère fait l'objet d'un portrait beaucoup plus doux, beaucoup plus affectueux. Je cite la traduction que vous avez écrite. Son silence exprimait la bonté, l'amour et les pleurs retenus. D'un moment à l'autre, ses lèvres pouvaient s'ouvrir et déverser toute la douleur, toute la compassion, tout son attachement pour moi. Alors cette figure de la mère, on la retrouve aussi dans beaucoup de vos entretiens, en réalité, notamment celui que vous avez accordé à Stéphane Bou sur France Culture, pour France Culture. Alors vous, votre mère, non seulement elle parlait le yiddish, mais elle écrivait en yiddish. Hein. Vous l'avez dit, c'est une novelliste. Vous l'avez traduite et nous souhaiterions, si vous le voulez bien, creuser un peu cette relation entre la langue yiddish et puis cette relation avec cette mère écrivaine que vous avez retrouvée à double titre, d'une certaine manière. Alors, les quelques questions qui me viennent sont celles-ci, c'est-à-dire que nous voudrions savoir si le yiddish est une langue maternelle à double titre pour vous, et comment vous le vivez, cette double appartenance par la mère et professionnellement, j'ai envie de dire, par vos travails de traduction de votre propre mère. Et peut-être, de manière un rien plus intime, mais du point de vue professionnel, qu'avez-vous trouvé ou retrouvé de votre mère dans ces ouvrages que vous avez traduits? Est-ce que ça a été un cheminement particulier? Est-ce que vous l'avez vécu comme un prolongement de votre relation avec elle, ou au contraire comme quelque chose de complètement différent, peut-être plus objectif, ou en tout cas qui vous aurait peut-être surpris aussi dans cette découverte?
Alors, ma relation avec ma mère a été très proche, puisque j'étais seule avec elle jusqu'à l'âge de 9 ans. Mais je n'ai pas de souvenirs, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de souvenirs personnels. Donc, quand j'ai lu ses livres, ou quand elle m'a lu ses livres, parce qu'elle m'en a beaucoup lu, je retrouvais ce que je ne savais pas, ni d'elle ni de moi. Parce que son écriture est très fortement marquée par son autobiographie. Et donc, finalement, ce que je sais de ma mère vient de ce qu'elle a écrit. Donc, effectivement, c'est une situation extrêmement, ambivalente. C'est-à-dire que je la prends comme mère à travers ce qu'elle écrit. Par la suite, bien sûr, nos relations ont changé, évidemment, avec nos âges respectifs. Et cette relation est très proche, très fusionnelle, comme ça, a rendu la traduction de ces livres très compliquée. Très compliqué parce que d'une part une crainte de ne pas rendre professionnellement à la hauteur son écriture, et d'autre part d'apprendre par son écriture ce que j'aurais dû savoir par moi-même. Et donc c'est véritablement une double relation, comme vous dites, à la fois de fille à mère et de traductrice d'une œuvre qui me parle aussi de moi. Et donc c'est véritablement une sorte, c'est très particulier et c'est très difficile à juger. Une fois que je l'ai traduit, je me demandais toujours, est-ce que c'est vraiment ça? Donc c'était très, très angoissant finalement de traduire quelqu'un d'aussi proche.
On le comprend volontiers, et justement dans cette odyssée d'émotions que vous avez finalement connue, est-ce que d'abord vous avez pu lui en faire part de vos traductions, de vos choix de traduction? Je pense qu'elle ne parlait pas le français, c'est ça? Ou très peu, très peu. Donc est-ce qu'elle elle n'a pas eu accès finalement à vos traductions en français?
Non.
Non.
Elle l'a lu, hein, mais bon, son français n'était pas suffisant, mais pour qu'elle... elle en prenne véritablement connaissance. Mais ça a été un peu comme pour les autres écrivains yiddish que je fais connaître. C'est toujours ce désir de transcender le petit peuple pour parler aux autres, à d'autres qui ne peuvent pas la comprendre dans sa langue. Et donc, il y a toujours une joie à se savoir, à savoir qu'on atteint d'autres lecteurs. Oui. Et donc ça, c'est vraiment, je crois que ça a beaucoup compté pour elle.
Oui. Est-ce que vous aviez des trucs pour, éventuellement, lorsque vous étiez submergé ou par l'intime ou par l'émotion, pour mettre à distance le texte? Et le reprendre peut-être après, est-ce que voilà, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait dans un flot continu? Comment ça s'est passé?
Non, ça a été fait dans un flux continu, mais ça a été repris un nombre de fois incalculable. D'ailleurs, comme toutes les traductions. Hein.
Oui, parce que ce qu'on a peut-être omis de dire, c'est que vous avez connu beaucoup des écrivains que vous avez traduits.
Absolument.
Et vous aviez sans doute des relations aussi de type plus amicales ou affectives,
oui,
avec
absolument.
Eux, c'est ça?
Bon, amicales, j'ai eu des relations amicales avec Soutskever, avec Lévik, et puis avec les gens qui faisaient partie de ce phalanstère yiddish du 9 rue Guy Patin. Donc, effectivement, j'en ai traduit Raison Jerklinski, par exemple. J'ai traduit des gens que je connaissais. Donc, j'étais à chaque fois devant ce problème. Est-ce qu'on traduit de la même façon quelqu'un qu'on connaît et quelqu'un qu'on ne connaît pas? Mais ça, je ne le saurai jamais.
C'était toute la question qu'on voulait vous poser, justement. C'est ça, la problématique. Alors, on le voit là, dans un certain pan, c'est-à-dire, vous qui vous retrouvez dans des écrits de votre mère, d'une certaine manière, comme vous venez de nous le dire, en tout cas, retrouver des racines, quelque chose un peu du mystère de votre enfance retrouvée, absolument, pourtant inconnue. De l'autre côté, l'autre pan, ce serait peut-être de vous demander si le fait d'avoir traduit ces ouvrages de votre mère vous a peut-être fait avancer dans votre pratique du yiddish, un peu comme cette langue qu'elle vous a transmise au début. Est-ce que, d'une certaine manière, elle a continué à vous la transmettre par ses écrits? Est-ce que vous avez senti une évolution dans votre manière de traduire le yiddish après avoir traduit votre mère, ou pas?
Oui, j'ai senti une évolution très largement dans la mesure où c'était le premier livre que j'ai traduit.
D'accord. Donc forcément, oui. Et cette fameuse distinction de Proust entre le moi créateur et puis le moi biographique, est-ce que vous arrivez à dissocier votre mère écrivaine de votre mère biologique et affective, ou est-ce que ça devient, vous avez employé tout à l'heure le mot fusionnel dans votre relation, est-ce que c'est là aussi une fusion entre ce travail, son œuvre, elle, vous?
Difficile hein, comme question.
Pardon.
Oui, écoutez, je pense que j'ai été très impliquée dans cette traduction, d'autant, encore une fois, que c'était la première, et du fait de notre proximité affective et intellectuelle, parce que, effectivement, moi j'ai beaucoup appris à l'école, mais j'ai beaucoup appris hors de l'école.
C'est ça. Alors ça, c'est quelque chose qui transparaît dans les entretiens que vous accordez, que vous nous avez également accordé déjà aujourd'hui. Il y a quelque chose chez vous qui semble être à la fois parfaitement en adéquation avec les institutions. Vous avez dit tout le respect que vous aviez pour l'école, même la fascination de l'école, le besoin d'école au départ. Vous avez un cursus honorum des plus achevés dans le parcours français. Et en même temps, il y a quelque chose chez vous qui semble sortir de l'académisme comme un pas de côté permanent. Alors je me posais la question de savoir si c'était peut-être en lien aussi avec cette maman qui vivait en France sans vraiment parler le français, une sorte de culture à l'intérieur mais pas dedans. Est-ce que vous faites un lien ou est-ce que vous considérez que c'est votre parcours vraiment personnel qui a fait cela ?
Écoutez, moi je pense que plus on a de cultures, plus elles sont diverses, plus elles sont nombreuses, mieux on pense. Et plus loin on va, à la fois dans la connaissance de soi et dans la connaissance des autres. C'est pour moi quelque chose... Oui, moi je pense que je n'aurais pas eu la vie que j'ai eue si je n'avais pas participé de cette multiplicité de cultures. Ce qui m'a amené à, comment dire, sans être prétentieuse, à m'intéresser à d'autres cultures, à d'autres domaines que le mien, à d'autres écrivains que les écrivains uniquement français ou que les écrivains uniquement yiddish. Et je pense que plus on a d'ouverture sur une multiplicité de cultures, je pense plus on s'enrichit, voilà. Et je sens que mon parcours que je considère comme étant très riche, pour moi bien sûr, comme étant très riche, est lié à cette multiplicité des cultures que je partage.
Absolument, parce qu'on va le rappeler, vous êtes également professeur d'anglais, vous avez une expérience américaine, vous venez de Sibérie, voilà, oui. Il y a quand même comme ça des... Vous êtes une voyageuse dans les textes, mais aussi dans l'espace, et vous aurez l'occasion d'en parler dans un prochain entretien. Est-ce que vous avez besoin du lien affectif pour traduire un auteur ?
Ah oui, parce que l'inconvénient du yiddish, c'est qu'aucun éditeur ne sait lire le yiddish. Donc c'était évidemment, c'est un inconvénient, mais pour un traducteur, c'est un grand avantage, parce que je pouvais choisir les textes que je voulais.
Ben voilà, on retrouve bien là, dans votre réponse, finalement, ce qui transparaît des différents entretiens que vous avez délivrés, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le respect du travail, quelque chose de très sérieux, très abouti, et toujours une sorte de personnalité, comme ça, de charisme très fort, qui fait qu'on sent que vous allez où vous voulez aller.
Oui.
Vous avez créé aussi une collection.
Oui, qui a été une collection vagabonde, ouais. Puisqu'elle est passée d'un traducteur à l'autre, d'un éditeur chez l'autre. Chacun a publié 5 livres, et puis au bout de 5 livres, il disait ça ne rapporte pas assez ce que je pouvais leur dire avant qu'il ne le sache. Et puis je passais chez un autre. Et effectivement, j'ai eu une très grande liberté que n'ont pas tous les traducteurs.
Est-ce que votre mère avait un regard particulier sur cette activité de traductrice du yiddish que vous aviez? Est-ce qu'elle en était heureuse, surprise, ou elle trouvait ça normal?
Elle en était heureuse.
Oui.
Elle en était heureuse parce que c'était pour elle une manière de faire connaître des aspects de la culture yiddish qui, pour elle, était en fait la seule qu'elle possédait. Donc, effectivement, elle en était très heureuse.
Alors, si vous le voulez bien, Rachel Ertel va proposer une lecture d'un texte, justement, de votre maman.
Alors, est-ce que je peux le replacer dans le contexte?
Absolument, oui.
Alors, le contexte, c'est que je suis... Enfin, ce livre est en grande partie autobiographique. C'est ma mère qui est déportée avec moi en Sibérie. Et elle se trouve à un moment à l'extérieur où quelque chose se passe qui va la bouleverser, et c'est ce que vous allez lire, évidemment.
On va découvrir ce texte grâce à vous, Le vent qui passe, qui débute ainsi. Dans le brouillard, une masse foncée se dessina. Plus la charrette approchait, plus nettement elle se détachait des vapeurs grises. Elle ressemblait à un troupeau. La route descendait, le cheval prit le trot. Quand ils furent plus près, ils distinguèrent des silhouettes humaines. C'était un convoi de prisonniers. Se serrant les uns contre les autres, couverts de haillons, ils avançaient. Des chiens loups et des policiers les entouraient. La charrette les suivit un moment. Ils barraient toute la route jusqu'à la gare. Un ordre fut lancé. Tous se laissèrent tomber à genoux, la tête bas sur la poitrine. Les chiens se couchèrent. Seuls restaient debout les gardiens, l'arme au poing braquée devant eux. Le brouillard flottait à ras du sol. La charrette s'arrêta. Akhmetov expliqua qu'il valait mieux se tenir à l'écart. Il leur restait une heure à attendre jusqu'à l'arrivée de la commission militaire. Esther prit l'enfant par la main et avança. Elle tournait autour des hommes agenouillés, restant à bonne distance. « Maman, c'est des bandits ?»« Non, mon petit. » « J'ai peur. Viens, on s'en va, » suppliait la fillette. « Qu'est-ce que tu cherches ici ?» Esther ne répondit pas. Elle n'entendait plus les questions d'Ita, le regard tendu. Elle cherchait. « Peut-être Menahem se trouve-t-il parmi eux ?» pensait-elle. « Ce serait si extraordinaire et pourtant ce n'est pas impossible. Cela fait des années que je ne sais même plus s'il est en vie. L'un de ces hommes, peut-être, Menahem. Un miracle peut se produire. » Mais ils sont tous agenouillés, la tête inclinée vers le sol. Ils n'ont pas le droit de bouger. Comment reconnaître quelqu'un? Ils se ressemblent tous. Jamais je n'aurais pu imaginer Menahem ainsi. Je n'aurais jamais pu croire qu'il s'agenouillerait sur l'ordre de quelqu'un. Mais il faut obéir. Un malheur est si vite arrivé. Ses pensées se bousculaient, se chevauchaient. C'est si soudain, si inattendu. Mais lequel parmi eux est Menahem? Je ne le reconnais pas. C'est incroyable. Je ne peux plus me rappeler son visage. Comment est-ce possible? Je ne peux plus me rappeler son visage, sa silhouette. Tout s'estompe dans une sorte de brouillard. Si, pourtant, elle se souvient. Menahem rentre du travail le soir. Il s'agenouille à côté du lit de l'enfant. Se penche sur elle, la tête sur sa poitrine. Comme maintenant. Mais alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le reconnaître? Elle frissonna. C'est lui, là-bas, au deuxième rang. « Non, celui qui est à côté du chien. Oh, je n'en sais rien. Si seulement il levait la tête pour une petite seconde. Mais il ne peut pas. Menahem, t'ai-je oublié? Quand? Menahem, quand ?» Perdant tout contrôle, poussée par le seul besoin de le reconnaître, elle s'approchait des prisonniers. « Je le reconnaîtrai. En voici un qui lève la tête. Il la baisse aussitôt. » Rien ne s'est passé. Personne ne l'a remarqué. Ce n'est pas Menahem. Il faut que Menahem en fasse autant. Il ne se doute même pas que je suis ici, à côté de lui, tenant Ita par la main. Comment le saurait-il? C'est le dernier là-bas au fond, à côté du fusil. Elle entend prononcer son nom. Quelqu'un l'appelle. Face à elle se tient le gardien, le fusil braqué. Il lui ordonne de s'éloigner. Elle ne sait plus quoi faire. Les prisonniers s'agitent, ils lèvent la tête, la regardent. Elle rencontre plusieurs regards, entend Ita pleurer, crier de peur. Elle la prend dans ses bras, la serre sur son cœur, essuie ses joues ruisselantes de larmes, ses yeux. Blême, silencieuse, elle la caresse, la couvre de baisers. Pas un mot ne sort de sa bouche. Elle s'éloigna d'un pas lent, entendant des reproches de toutes parts.
Merci de votre lecture, parce que ça m'a je suis très émue.
Mais nous aussi. Nous aussi, ce sont des textes très forts.
Alors, je vais vous lire quelques paragraphes. Im Nebel, wo sich gehangen noch niedriger über der Erde, hat sich geruckt ein dunkler Fleck. Was nennt er das Vogel ist zugekommen, hat man ihm besser gesehen, sich ausstehlen von der Gräuigkeit, wie ein Stadeschopf wurde man getrieben. Der Weg hat geführt herab. Das Pferdl hat angehoben, unterzulaufen. Wenn sie seinen zugekommen nannten, haben sie plötzlich bemerkt, menschliche Silhouetten vor sich. Arrestanten sind gegangen, eng zusammengedrückt, eingewickelt in Latex, haben sie sich geruckt, herausgeruckt mit Größe und bewaffnete NKWDisten. Eine kurze Zeit ist das Fuhrer bei Mellach noch gefahren. Der Weg ist vernommen, bis sie seinen zurückgekommen zum Bahn. Es ist gefahren Bertel Irmann. Hat haben sich herabgelöst in die Knie, die Kepp niedrig, sind geblieben, mit Gewehr angestellt vor sich. Der Nebel ist gehangen niedrig.
Merci Rachel Hertel. Alors, vous êtes une femme traductrice qui avait traduit aussi, autre que votre mère, des femmes qui écrivaient en yiddish. On peut penser par exemple à Kadie Molodovsky, dont vous proposez un texte dans votre anthologie livre La langue de personne. On s'est demandé finalement s'il existait, alors non pas une écriture féminine, parce que le débat maintenant peut-être est un peu rebattu, mais est-ce qu'il y a une expérience féminine de l'écriture yiddish, et peut-être plus particulièrement des grandes expériences évidemment comme le Rurben? Est-ce qu'il y a un regard particulier des femmes que vous avez traduites, ou que vous avez pu lire par ailleurs, des écrivaines yiddish par rapport à, voilà, à cette langue et les expériences qu'elles véhiculent?
Alors, ça, il faut remonter à l'histoire. Les Juifs avaient deux langues, l'hébreu et le yiddish, en Europe orientale et centrale. L'hébreu était la langue sacrée. Le yiddish était la langue de communication. Et donc, les intellectuels juifs, les rabbins, je parle d'une période relativement ancienne, correspondaient en hébreu, écrivaient en hébreu, etc. La littérature yiddish naît vers le XVIe siècle et la Bible est traduite en yiddish à la même période. Les femmes ne suivaient pas d'études en hébreu. Elles n'étaient pas, elles n'avaient pas accès à ce qui était considéré comme étant le plus noble. Donc, elles ont lu et écrit en hébreu. Si bien qu'il y a une littérature yiddish dont les femmes sont les plus consommatrices en quelque sorte. D'accord. Et donc effectivement, ça a étant donné le statut qu'a le yiddish dans l'histoire, est un statut qui est considéré à l'époque, enfin, quand le yiddish est en congé, est considéré comme un statut plus bas. Et ce qui était écrit sous forme de roman, sous forme de nouvelles, sous forme de poésie, y compris des poésies qui sont entrées dans les prières juives, ont souvent été écrites par des femmes. Donc il y a toute une tradition, effectivement, de l'écriture des femmes, et cette tradition s'est conservée jusqu'à maintenant. Et il y a beaucoup, moi j'en ai traduit peu, ça se trouve comme ça, mais j'en ai traduit peu et j'en ai lu plus, mais la femme, véritablement, a été à la fois celle qui suscitait l'écriture en yiddish, parce que, comme tous les écrivains yiddish avaient besoin de manger, donc de vendre aussi leurs écrits, et en même temps, elles étaient celles qui appréciaient cette littérature, qui parfois s'adressait directement à elles, et parfois était une littérature qui s'adressait à n'importe qui. Mais il y a véritablement une tradition, surtout dans la poésie, une tradition d'écriture de femmes. Alors, féminine, ça je n'en sais rien, mais une écriture de femmes, c'est sûr.
Ah, entendu. Dernière question, donc, enfin, dernière remarque à partir de ce dernier propos. Est-ce que donc votre mère et vous-même êtes finalement d'autres maillons de cette chaîne de femmes qui véhicule cette langue ? Est-ce que vous êtes consciente que par votre statut aujourd'hui, vous qui étiez professeur en université, est-ce que vous avez l'impression d'avoir donné en quelque sorte ces lettres de noblesse ou avoir contribué à donner ces lettres de noblesse à une langue dont vous venez de dire à l'instant qu'elle était parfois méconsidérée par rapport à la langue hébraïque ?
Oui, par rapport à la langue hébraïque, elle était appelée le jargon. Ah. Très longtemps, elle s'est appelée le jargon. Et effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles je traduis tant, j'ai une telle volonté de traduire, c'est effectivement pour donner à la fois un titre de noblesse à cette culture et à cette littérature et montrer sa modernité. Parce que ce qui se passe, c'est que on considère le yiddish est souvent assimilé au chassidim, au pieux, mais rarement au monde contemporain dans lequel nous vivons. C'est l'image, le stéréotype, si vous voulez, du juif. Or, moi j'ai commencé par traduire, outre le livre de ma mère, par traduire et faire traduire dans la collection que j'ai eue des auteurs moderne, parce que je voulais montrer que non seulement c'était une littérature qui avait une grande valeur, mais que c'était une littérature de notre temps et qui parlait de nous.
Merci beaucoup, Rachel Hertel.